Et c'est en votre compagnie chaque semaine, David Torchala, que nous parlons bien sûr de l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Alors on dit souvent que l'hiver, il se passe pas grand-chose hors saison, alors que vous nous prouvez chaque semaine qu'à Lourdes, il se passe toujours quelque chose au sanctuaire.
Vous faites rire, Philippe, parce que s'il y a bien une semaine où elle est, où une semaine calme, c'est bien cette première semaine de janvier. Et on mérite tellement de calme. Non, mais c'est simplement pour plaisanter, mais évidemment... le sanctuaire a proposé pendant tout ce temps de fêtes de fin d'année, de vacances scolaires, un très beau programme qui a amené des milliers et des milliers de personnes à venir vivre un temps de Noël un petit peu autrement, à la découverte des crèches, des spectacles qui ont été donnés sur le parvis de la basilique du Rosaire pour venir prier le chapelet à la grotte le soir, la nuit, à la lumière des flambeaux. Que c'est beau aussi de vivre ces temps de fêtes de fin d'année, ces fêtes de Noël. Et puis aussi, il a été l'occasion pour le recteur du sanctuaire et les chapelains de clôturer cette année jubilaire. C'était le 31 décembre dernier. Donc voilà, le jubilé de l'espérance, c'est fini. Oh, c'est très triste de dire ça. C'est forcément pas fini parce que l'espérance, eh bien, elle est toujours dans notre cœur en 2026. Et puis vraiment, c'est pas un scoop, ça sera encore pour les années prochaines. En tout cas, on a pu rencontrer le recteur le soir même du 31 décembre, qui a tenu à adresser ses vœux à vous tous, chers auditeurs.
Nous sommes le 1er janvier, il est minuit et quelques minutes, et j'ai la grande joie de venir vous présenter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Nous venons avec Monseigneur Mika de célébrer l'Eucharistie, ici même à la grotte de Massabielle, la grotte des Apparitions, pour la clôture de l'année jubilaire et pour rendre grâce de ce que fut cette belle année où nous avons été invités à être pèlerins d'espérance. Et nous avons aussi bien évidemment présenté au Seigneur cette nouvelle année qui s'ouvre. C'est donc l'occasion pour moi de vous la souhaiter bonne et belle, bonne et heureuse année 2026, bonne et sainte année 2026, bonne année et bonne santé. Le thème pastoral de cette année 2026, ce sont les premières paroles de l'ange à la Vierge Marie, à l'Annonciation. « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Eh bien, ici même, à la grotte de Massabielle, mon souhait, mon désir, ma prière, c'est pour que, à l'occasion de cette année, vous puissiez venir en pèlerinage pour vous confier au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie et pour que vous puissiez bénéficier de cette grâce dont la Vierge Marie a été comblée pour vous et tous les vôtres, tous les membres de vos familles, de vos communautés, de vos diocèses. Alors oui, chers amis, chers pèlerins, bonne, belle et sainte année à vous toutes et tous.
Voilà, c'était donc le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes qui présentait ses vœux, on l'a bien compris, juste après la messe.
Oui, c'est ça, au cœur même de la grotte. Et donc, il a tenu à donner le titre et le thème de cette année 2026 pour tous les pèlerinages de l'année. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Voilà, donc c'est bien la prière du « Je vous salue, Marie », le « Oui » de Marie qui sera le fil conducteur de tous les pèlerinages, effectivement, de l'année.
Voilà. Alors, les grandes dates qui vont se profiler, bien sûr, ça va être rapidement le 11 février.
Oui, la prochaine date qui nous anime déjà tous, le 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, premier anniversaire de la première apparition, et puis journée mondiale des malades. Mais... c'est l'occasion pour le sanctuaire de réunir au cours de plusieurs journées, les journées de Lourdes au pluriel, tous les organisateurs de pèlerinage, les présidents d'hospitalité, tous ceux qui viennent à Lourdes, accompagner des personnes malades, handicapées, voilà, touchées par parfois la dureté de la vie, de leur pouvoir leur faire vivre ici un pèlerinage. Et c'est d'ailleurs l'occasion que j'ai pu avoir pendant le temps de ces fêtes d'interviewer le recteur sur cette singularité qu'a le sanctuaire de Lourdes dans l'accueil des personnes malades. Alors oui, il y a des sanctuaires dans le monde, il y en a beaucoup, des sanctuaires avec des apparitions. Lourdes est certainement l'un des plus célèbre, mais par contre, c'est le seul à avoir ce charisme d'accueil des malades, et ça, on le doit évidemment aux hospitaliers. Alors, bah, du coup, je vous propose d'écouter ce temps d'échange que j'ai pu avoir avec le recteur.
On vous retrouve tout de suite. Merci beaucoup, David Tourchala. Et puis, ben, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Ouais, promis, je serai là. Merci beaucoup.
On vous retrouve avec cette belle interview que vous avez fait donc avec le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Merci, David.
Frappé par une image, celle de brancards qui avancent lentement, de fauteuils bleus poussés avec douceur, de regards échangés entre pèlerins malades et hospitaliers ici à Lourdes. La fragilité n'est pas mise à l'écart, elle est accueillie, entourée, elle est portée depuis plus d'un siècle et demi. Lourdes est ce lieu où les plus faibles deviennent les premiers, où l'on avance ensemble à la lumière des flambeaux le soir des processions, à la lumière de la Vierge Marie. Et si tant de pèlerins malades reviennent année après année, c'est parce qu'ils savent qu'à Lourdes, tout est fait pour eux, pensé pour eux, tout est offert pour eux. Pour comprendre cette mission unique, je pense qu'on peut le dire, nous allons vérifier avec vous, Père Michel Dauban, bonjour.
Bonjour David.
Vous êtes le recteur du sanctuaire. Ensemble, nous allons aller peut-être au cœur du message de Lourdes, en parlant de l'accueil, du service, de cette charité en acte qui est vécue avec la présence des malades au sein du sanctuaire. Ils sont chaque année des milliers de pèlerins à venir, plus de 20 000 dans les accueils médicalisés. Ils sont très nombreux aussi à venir entourés de leur famille, de leurs amis. Et puis il y a aussi les malades invisible et le handicap qui est invisible. Il n'est pas simple de donner des statistiques, mais pour autant, est-ce que c'est vraiment la vocation du sanctuaire que d'accueillir les pèlerins malades à Lourdes ?
Je pense que c'est d'autant plus la vocation que ça s'inscrit dans vraiment la dynamique tout simplement de l'évangile. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus s'est tourné vers les malades, les précaires, les lépreux, ce furent les malades de l'époque, les sourds, les muets, les boiteux. Et donc de fait, il y a une continuité dans cet évangile qui est vraiment annoncé et reçu par les plus petits. Et de fait, c'est aussi pleinement dans la continuité du message de la Vierge Marie à Bernadette, avec cette invitation à faire œuvre de pénitence et donc à la traduire par une attitude, des gestes de charité et de charité envers ceux qui ont besoin de notre aide, de nos frères et sœurs qui ont besoin d'un soutien pour concrètement venir en pèlerinage.
La présence des malades démarre au moment même des apparitions et finalement, elle sera toujours sans discontinuer jusqu'à aujourd'hui.
C'est ça. De fait, la première miraculée, c'est Catherine Latapie de Loubajac qui est guérie le 1er mars 1858, alors qu'elle a fait l'aller-retour à pied, évidemment, dans la journée. Son bras paralysé retrouve toute son agilité dès le soir même. Et du reste, elle accouche de son petit garçon le soir même, après cette journée particulièrement riche. Il y a très vite Louis Bourriette, qui est également guéri. Et effectivement, sans discontinuité, les malades sont venus. Alors, c'est le bouche à oreille, évidemment, qui a fonctionné. Et ils sont venus et des guérisons se sont multipliées. On voit des photos plus ou moins anciennes avec cette grotte, avec toutes ces cannes qui sont posées au-dessus de la grotte et qui témoignent de ces personnes qui sont venues assister et qui repartent, j'allais dire, en gambadant.
La Vierge Marie, quand elle est apparue à Bernadette, ne lui a pas demandé directement d'accompagner, de faire venir des malades à Lourdes. Et pour cette troisième parole, elle dira à Bernadette, « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. » Cette phrase, elle est simple à comprendre. Mais quelle est véritablement sa signification ?
Sa signification, c'est de considérer que notre foi, fondamentalement, elle nous oriente vers notre avenir en Dieu, au-delà de ce monde-ci, mais notre foi, elle nous oriente aussi dès ici-bas, dans cette vie de foi, de charité, d'espérance que nous sommes invités à vivre au nom de notre baptême. Quelque part, cet autre monde, c'est aussi une autre manière de voir le monde dès ici-bas, en donnant toute son attention précisément à ce que nous invite à vivre la foi.
Le rôle des hospitaliers est central à Lourdes. Ils sont souvent les premières mains tendues, les premiers sourires. Selon vous, qu'est-ce qui fonde leur mission à Lourdes ?
Ce qui fonde leur mission, c'est déjà l'appel. L'appel de la Vierge Marie, beaucoup disent très vite dans leur témoignage que s'ils sont venus à Lourdes, c'est pas le hasard, c'est parce qu'ils y ont été appelés. Et c'est parce qu'il y a quelque chose là qui se vide absolument déterminant dans leur propre vie intérieure. Et de fait, dès lors qu'on entre dans le sanctuaire de Lourdes et que l'on s'engage au service des malades, comme dit notre cher docteur Alessandro de Francisis, nous attrapons la lourdite. La lourdite, c'est cette maladie qui est une très très bonne maladie, qui est très contagieuse et fort heureusement, qui consiste de fait à continuer à œuvrer dans ce domaine de la charité qui nous épanouit. Bien sûr que le service, il est important parce qu'il est rendu à l'autre qui n'aurait pas pu venir sans nous, mais il nous épanouit à nous-mêmes qui sont heureux d'avoir pu rendre ce service. Et cette générosité, c'est comme les boules de neige. Elle ne cesse de grandir, elle ne cesse de se développer au fur et à mesure que l'on s'engage. Donc on ne peut plus s'en passer.
Cette charité, il faut aussi savoir l'appréhender, la mettre en place, l'organiser. On sait l'organisation des hospitalités. Est-ce que c'est une école de charité, une hospitalité ? Est-ce qu'on apprend à devenir charitable ?
Alors, je crois que pour une part, effectivement, on apprend à être, alors non pas charitable, mais on apprend à être hospitalier avec des gestes qui parfois sont très très techniques. Il y a des maladies, des pathologies invisibles avec des personnes qui sont tout à fait autonomes, mais il y en a d'autres qui sont très lourdement handicapées. Et donc, prendre en charge une personne très handicapée, ça s'apprend. Il y a des gestes tout à fait précis à ne pas faire, et donc des gestes à faire. Après, une fois ceci étant dit, le témoignage des uns et des autres opère, et ce n'est pas compliqué d'être contaminé et de trouver finalement assez vite l'attitude qui convient, le positionnement qui convient. Vous savez, bien souvent, il ne s'agit pas d'avoir des gestes précis, des paroles très importantes en réponse aux questions essentielles que vont nous poser les malades. Il s'agit d'être avec eux. Il s'agit d'être auprès d'eux, de les accompagner, de les tenir parfois par la main, voilà, d'être là, présent dans les gestes les plus simples, et c'est ça qui parle. Et ça nous vient du fond de l'humanité. Je pense que l'école, elle peut ne pas être forcément très très essentielle. On apprend tous chacun individuellement aussi.
Pour aider chacun, le sanctuaire déploie des structures d'accueil médicalisées, des structures adaptées pour vivre le pèlerinage. C'est une vraie organisation de faire venir des malades à Lourdes. Concrètement, sans entrer dans un grand détail, mais comment s'organise cet accueil des malades à Lourdes ?
Alors il y a l'accueil Notre-Dame et puis l'accueil Sainte-Marie-Saint-Fré avec les sœurs de Saint-Fré qui le gèrent, donc deux établissements importants, deux établissements hospitaliers qui sont organisés, qui sont prévus pour accueillir des malades avec toute la médicalisation donc qui s'impose, avec le défi aussi de faire en sorte que cet accueil reste un accueil pleinement humain et qu'on n'ait pas l'impression effectivement d'être dans une chambre d'hôpital, même si c'est le cas. Et donc cela passe par de la décoration, cela passe par de l'attention, cela passe par de l'individualisation. De fait, un accueil, il y a évidemment un certain nombre de personnels salariés tout à fait indispensables pour être constituer l'ossature de cet accueil. Et puis ensuite, il y a des bénévoles et avec les hospitaliers, et à la fois les hospitaliers Notre-Dame de Lourdes qui sont là pour accueillir ceux qui viennent, et les hospitaliers des diocèses respectifs qui accompagnent les malades qui viennent dans le cadre de leur pèlerinage. Et tout ceci forme une alchimie assez extraordinaire. Ça marche. Ça marche. C'est aussi un des miracles de Lourdes.
Mmh. On l'a dit en introduction, c'est plus de 20 000 pèlerins malades qui se rendent dans les accueils. Mais pour autant, les accueils sont tellement grands qu'il y a encore de la place libre. Que diriez-vous à une personne malade qui hésite à faire le pas, à prendre ce billet de train ou ce billet d'autocar ou même d'avion pour venir à Lourdes?
Je dirais évidemment qu'il ne faut pas hésiter. Parce que tout est fait pour que ça se passe bien. On peut avoir quelques appréhensions légitimes avant de venir. Une fois qu'on est venu, on se rend compte qu'elles n'étaient pas, elles n'étaient pas justifiées. Je vous remercie de poser cette question parce que je pense que c'est un vrai défi aujourd'hui pour tous. D'abord pour les malades, bien évidemment, qui peuvent en profiter, en bénéficier. Mais également pour les accueils eux-mêmes, pour le sanctuaire eux-mêmes, parce que la présence des malades, la présence des hospitaliers auprès des malades, c'est vraiment la colonne vertébrale de ce qui se vit dans le sanctuaire. Et c'est là qu'il y a ce témoignage de la charité en acte qui parle. Et qui parle à tous ceux qui viennent, qui passent dans le sanctuaire, qui ne le connaissaient pas forcément, et puis qui vont être vraiment interpellés par cette foi vivante. Et c'est vraiment l'ADN du sanctuaire qui se vit là. Donc le défi aujourd'hui, c'est de faire venir des malades pour qu'ils en profitent, pour qu'ils soient les premiers à en profiter, mais pour que l'ensemble du sanctuaire en profite. Et donc notre monde, l'Église, y a-t-il un plus beau témoignage de la foi que de manifester cette charité concrète auprès des plus petits et des personnes malades? Je ne pense pas.
C'est votre cœur d'hospitalier qui parle, parce que vous êtes recteur, mais vous avez été, vous êtes toujours hospitalier quand vous dites
vous
ça.
Vous posez la question parce que vous le saviez ou parce que vous l'écoutez?
Non, parce que
à travers mes mots.
Je vous entends sur une voix institutionnelle, évidemment, mais là, on sent en fait une émotion aussi dans cet appel, en tout cas, pouvoir faire venir les malades. Est-ce que vous pensez que, vous qui avez été hospitalier, il est nécessaire aussi de venir resserrer les rangs des hospitaliers?
Je pense qu'il est fondamental de venir étoffer le rang des hospitaliers. Alors effectivement, je l'avoue, c'est l'hospitalier que je fus qui parle, et c'est le recteur d'aujourd'hui. Et je trouve qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Parce que en tant que recteur, je fais tout pour être au service des pèlerins, et je suis vraiment convaincu de la beauté de ce service-là qui nous épanouit. Je pense à cette parole qu'on attribue à Jésus dans les Actes des Apôtres, où effectivement on fait dire à Jésus il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà. Et je pense que c'est vraiment vrai, et que on a tous un grand intérêt à faire partie de cette école de l'hospitalité d'une manière générale, mais de fait du service, pour voir que c'est là que on rend du coup vraiment service et que l'on s'épanouit pleinement. Là est le bonheur et pas ailleurs. Là est l'autre monde que la Vierge Marie avait promis à Bernadette, et pas aussi ailleurs, mais déjà ici même.
Merci Père Michel Dauban.
Je vous en prie, avec plaisir.
Voilà, à l'instant, c'était le recteur du sanctuaire, le Père Michel Dauban, qui était interviewé par David Torchala. Voilà qui va conclure ce long moment consacré à l'information donc du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, comme nous le faisons chaque lundi.